Voilà, on va aborder alors ce sujet sur la crémation. Alors, ce n'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours, vous comprenez bien, je dirais même parfois, peut-être même certains pasteurs n'ont jamais abordé, mais je pense que je voudrais prendre ce sujet comme l'occasion pour vous peut-être de le prendre comme un outil qui vous permettra peut-être de répondre à des amis, à des proches, pendant ces moments, je dirais, d'inhumation. C'est toujours là l'occasion de pouvoir aussi partager la foi chrétienne, puisque parfois il y a des familles, des amis qui savent que nous sommes chrétiens. Nous avons cette foi qui transpire dans notre vie spirituelle, et des gens bien, s'approchent de nous et souvent nous parlent de l'éternité, nous parlent de tout cela, et on se retrouve parfois devant des situations comme la crémation où on pourrait nous être amené à répondre à ce sujet. Alors, vous savez, beaucoup ignorent l'origine de la crémation. Déjà, la crémation est une technique visant à brûler et à réduire en cendres le corps d'un être humain décédé, mort. Mais je crois qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées là-dessus. Pourquoi cette société pousse les gens à incinérer les défunts? C'est la question qu'on se pose. Et dans quel but le font-ils? Quelle est la situation du chrétien, ou en tout cas la position du chrétien face à la crémation? Parce qu'on va être forcément être amené, non pas seulement d'y répondre, mais peut-être qu'on va nous demander comment vous voulez qu'on fasse pour vous. Et certaines personnes, on va peut-être poser cette question à un moment donné, et on va se retrouver devant peut-être des cas de conscience. Et que dit la Bible justement à ce sujet? Parce qu'en fait, le plus important dans tout cela, c'est ce qu'en pense la parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit les Écritures. Alors, avant d'aller plus loin, d'aller au cœur de ma pensée, de cette réflexion que nous retrouvons dans les versets bibliques, je voudrais déjà brosser un tableau du monde, dans le monde et en France, sur la crémation, le pourcentage de cette pratique en France et dans le monde. En 1980, cette technique n'était utilisée que pour 1% des obsèques. Mais quand on arrive en 1984, on monte déjà de suite à plus de 10%. Et puis, en 2004, nous montons à plus de 25%. Vous voyez l'évolution? Et puis, en 2010, selon l'Association française d'information funéraire, qu'on appelle la FIF, le taux de crémation approchait les 30%. Aujourd'hui, on estime à peu près à 35% les gens qui demandent à se faire incinérer. Et la crémation est très pratiquée au Japon, à plus de 95% au Japon. Mais ça, c'est dû à la culture, à la philosophie. Il faut tout remettre dans le contexte. En Hong Kong, à 86%. Et aux États-Unis, la proportion est d'environ 32%. Alors, vous voyez, il y a eu une évolution incroyable sur ce phénomène de la crémation. Alors, c'est bien de savoir aussi ce qu'en pensent les religions autour de nous. Parce que c'est bon de connaître un petit peu leur position, leur pensée. Par exemple, l'Église catholique romaine tolère la crémation. Elle la tolère depuis le 5 juillet 1963, mais la déconseille. Il la déconseille. Quand on parle de l'Église orthodoxe, elle le condamne. Elle condamne la crémation qu'ils appellent volontaire. Pourquoi ils disent volontaire? Et on comprend bien. S'il y a quelqu'un qui a un accident de voiture et qui décède brûlé vif dedans, vous comprenez bien, en tant que chrétien, vous comprenez bien que ça n'a aucun rapport avec la crémation. Le Seigneur, vous inquiétez pas, on le retrouvera au ciel dans tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. Et vous savez, pendant la guerre, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été enfermés dans les églises puis on les a brûlés vifs. Alors, quand ils parlent de ça, les orthodoxes, ils parlent de la crémation volontaire, cette démarche de vouloir, après le décès de la personne, de se faire incinérer. Chez les hindous, cette pratique permet de libérer l'âme des morts. C'est une pratique systématique. C'est même l'occasion pour eux d'être enfin libérés, de s'exprimer, vous voyez, pour vous montrer un petit peu que ça change d'une culture, d'une philosophie à une autre. En Israël, l'usage des crématoriums est très mal vu, car cela rappelle les fours des camps d'extermination utilisés lors de la Shoah. Alors, vous comprenez bien que ça remonte, des situations relativement douloureuses dans le cœur du peuple juif, mais les juifs orthodoxes refusent le procédé de la crémation. Ils refusent. Alors, vous voyez déjà là, au travers de toutes ces religions, on peut s'apercevoir que seul l'hindouisme pratique et libère et exprime totalement, cela au travers de leur culture. L'origine de la crémation, parce que c'est très important d'en connaître l'origine. Parfois, on fait des choses, on dit des choses, on utilise des situations, mais on n'en connaît pas réellement l'origine. Et là, il est important peut-être de pouvoir s'y attarder quelques instants ce soir, et on évoque plusieurs raisons par rapport à l'origine. À la base de la crémation se trouvent des philosophies et des religions d'origine orientale, telles que l'hindouisme, le bouddhisme, qui pratiquent la crémation de façon habituelle. Parce que c'est dans la culture, c'est dans la philosophie. Cette habitude est basée, comme je viens de le dire, sur la philosophie, c'est-à-dire le rejet de la résurrection. Cette religion est basée, leur croyance plutôt sur la réincarnation. Or, nous sommes sur la résurrection. On n'est pas du tout dans le même niveau. On n'est pas sur la même longueur d'onde, si on peut dire ainsi. Actuellement, on recherche surtout le côté pratique, économique, écologique. C'est ce qu'on parle souvent, les gens dans la rue, quand on parle de l'incinération, de la crémation. On dit, ouais, mais c'est économique, c'est écologique, mais vous allez voir plus tard, c'est moins évident que ça. Certains la choisissent avec l'arrière-pensée d'empêcher la résurrection de leur corps, comme un défi à Dieu. Vous saviez ça ? En se disant, si je passe par l'incinération, Dieu ne sera pas capable de me reconstruire, de me reconstituer. Ah ouais. Pour d'autres, la pensée de la décomposition du corps les répugne, pensant qu'on va partir comme ça, et puis bon, je ne vais pas vous expliquer le détail, hein. Eh bien, ça les rebute. Dans des pays comme les Indes, cela revêt un caractère religieux. C'est tout à fait différent. C'est même dans la tradition. Pour d'autres peuples, la crémation prend une autre dimension. En effet, l'incinération est pratiquée avec l'idée que si l'on brûle le corps, le défunt ne peut plus demeurer dans le voisinage et hanter les vivants. Et là, il y a le caractère occulte. À partir du moment où on brûle le corps, il n'y aura plus son esprit qui va naviguer autour de la maison, du quartier. Alors, on voit que dans différentes cultures, différentes régions, on a une approche tout à fait différente. Des peuples comme les Grecs et les Romains, qui pratiquaient allègrement la crémation d'après leur philosophie, le corps constitue une prison pour l'esprit. Alors, il faut donc libérer l'esprit. Par conséquent, certains se faisaient incinérer. Mais que dit la Bible ? Parce que là, on a fait un petit peu le tour, on a regardé un petit peu l'origine, on a vu le pourcentage en France, dans le monde, on a pu voir un petit peu ce qu'en pensent certaines religions, comme les catholiques, les orthodoxes, les hindous, les musulmans. Mais que dit la Bible ? Mais dans la Bible, lorsqu'il est question de brûler le corps, il s'agit soit de sacrifice, soit de jugement de malédiction. Quand on regarde les textes, on peut s'apercevoir qu'à tout moment où il y a une intervention du feu, derrière, c'est toujours lié par la malédiction, par un jugement. Depuis les temps les plus anciens, l'ensevelissement a toujours été ce que la Bible enseigne. Même pour les criminels condamnés à la peine capitale, je vais vous lire plusieurs versets. On ne va pas rentrer dans le contexte parce que vous comprenez bien, je vais lire une bonne quinzaine de versets pour que vous puissiez comprendre, mais après vous aurez tout le temps chez vous, si vous avez un stylo, un carnet, vous pourrez marquer tous ces versets et rentrer dans le contexte. Mais il nous est dit dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 à 23, il est dit ceci: « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. » Mais nous avons encore d'autres exemples. J'ai l'exemple d'Abraham dans la Genèse, au chapitre 15, et au verset 15, il est dit ceci: « Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ici, nous avons la déclaration de Dieu, « Tu seras enseveli ». C'est Dieu qui parle, qui donne quelque part un ordre clair, précis. Dieu est très précis quant à la manière d'agir à l'égard du défunt. Il aurait pu se contenter de ne rien dire, de laisser même la famille le soin de pratiquer ce rite. Non, il donne une précision, une direction, « Tu seras enterré ». Dans la Genèse, au chapitre 25, versets 8 à 10, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Abraham avait acquis des fils de Heth, et là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Dans Genèse, au chapitre 23, versets 2 à 4, il nous est dit « Sarah mourut à Kirja Arba, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Je vous ai parlé aussi de Rachel dans la parole de Dieu, dans Genèse toujours, au chapitre 35, verset 19, il nous a dit que Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Éphrata qui est à Bethléem. Quand on parle d'Isaac, c'est aussi la même chose, toujours dans ce chapitre 35, mais au verset 28 à 29, les jours d'Isaac furent de 180 ans, il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Que dire de Moïse ? Moïse, c'est intéressant. Dans Moïse, Deutéronome, toujours 35, mais versets 5 à 4, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Alors, je vous ai dit que la mort de Moïse est intéressante à scruter. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui s'est occupé de son corps. Et Dieu l'a enterré. Alors, où ? Dieu seul sait, hein ? Mais c'est Dieu qui l'a enterré. Puis, Samuel, dans 1 Samuel chapitre 25, verset 1er, Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure, à Rama. Amen. Et puis, dans le Nouveau Testament, puisqu'il est intéressant aussi de pouvoir parcourir la Bible dans son intégralité, la parole de Dieu, elle est parfaite de la première à la dernière page. Et là, il nous est parlé de Jean-Baptiste, dans Matthieu, chapitre 14, verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Quand on parle d'Étienne, dans le Nouveau Testament, toujours dans Actes, chapitre 8, verset 2, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et que dire de Lazare, notre cher Lazare, qui resta 4 jours dans son sépulcre, où Jésus a apparemment tardé. Mais non, il n'a pas tardé, Jésus. Il est venu au bon moment, en fait. Mais il nous a dit de Lazare dans Jean chapitre 11, au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Il était enterré, finalement. Puis Jésus, notre maître, notre exemple, je dirais notre référence, il a dit de lui dans Matthieu chapitre 27, versets 57 à 61, puis après on rentrera dans d'autres détails, il a dit « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. » Joseph prit le corps, l'enveloppa dans linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre et l'entrée du sépulcre. L'apôtre Paul déclare ceci très intéressant par rapport à Jésus dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 à 4. Il dit ceci à l'église de Corinthe, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Voilà quelque chose qui nous montre qu'à plusieurs reprises et tout au long de la Bible, il nous est parlé de l'ensevelissement. Et voici un verset très intéressant aussi, c'est dans les psaumes, psaume chapitre 79, verset 1 à 3, il est dit: « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint-Temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Elles ont livré les cadavres des serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Il n'y a eu personne, mais personne pour les enterrer. » Et là, je me trouve devant un verset très intéressant, puisqu'il nous est parlé de ces serviteurs qui ont été jetés en pâture, comme des cadavres qui ont été abandonnés. Et puis à la fin, il est dit: « Mais il n'y a eu personne pour les enterrer. » Cette phrase sonne comme un scandale, comme quelque chose d'ignoble, d'avoir abandonné des corps, laissés comme cela en pâture. Alors qu'il précise dans ce texte, il n'y a eu personne pour les enterrer. Alors, voyons maintenant le feu dans la Bible. Alors, pas d'amalgame avec le feu du Saint-Esprit. Et ça, je parle pour ceux qui sont peu initiés aux Écritures, puisque le feu du Saint-Esprit, c'est un symbole. La parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit comme un feu, un vent, une colombe. On ne parle pas de ce feu-là, on ne parle pas de ces symboles. On se comprend bien. À travers toutes les Écritures, nous constatons que la destruction d'un objet ou d'une personne par le feu est un signe de la colère de Dieu. De la colère de Dieu suite à différentes malédictions, suite à différentes désobéissances. On s'aperçoit que parfois l'homme c'est tout simplement vautré dans le péché. Puis il y a eu cette condamnation qui était là. Et nous avons quelques exemples par rapport à ça. Nous le retrouvons dans Exode, au chapitre 32, au verset 20, quand il nous est parlé du veau d'or. Quand il nous est parlé du veau d'or, il est dit ceci: il prit le veau qu'ils avaient fait. Vous savez, pour vous remettre dans le contexte, c'est le peuple d'Israël qui attendait les tables de la loi de Moïse, alors que Moïse était avec l'Éternel sur cette montagne. Et puis ils attendaient. Puis voilà, ils se sont empressés de vouloir faire vite un autre Dieu en remplacement au vrai, à l'authentique. Ils se sont fait un veau d'or. Et il est dit ceci: il prit le veau d'or qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. Et je reviens sur ce verset: il prit le veau d'or qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Puis, un peu plus loin, quand tu nous as parlé des fils d'Aaron, dans le Lévitique au chapitre 10, à partir du verset 1 à 2, Lévitique chapitre 10, il dit: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Tout cela à cause du feu étranger. Et la parole de Dieu nous montre dans ce passage que le feu de l'Éternel est venu les consumer. C'est dur, certes. Ce sont des versets qui ne sont pas réjouissants. Mais nous montre par là que le feu, au travers de ce qu'on utilise l'Éternel dans ces textes, est vraiment pour stopper le péché, la condamnation et l'interdit. Des hommes iniques, dans la parole de Dieu, nous le retrouvons dans Nombre, au chapitre 16, au verset 2, il est dit ceci, des hominiques, il est dit: ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Verset 20, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Dans Nombre, toujours au chapitre 16, verset 35, il est dit: un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Il est dit après: avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Il est dit: le feu sortit d'après de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Voilà encore un texte qui nous montre combien il y a là une sorte de malédiction qui tombe sur le peuple. Mais il nous est parlé aussi des images taillées. Dans Deutéronome, au chapitre 7, au verset 25, il est dit: « Vous brûlerez au feu des images taillées de leur Dieu. Hein ? Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 10, verset 26, il est dit « tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent ». Là, il nous a parlé dans tout ça de tout ce qui est aussi occulte. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un qui veut se débarrasser de tout ce qu'il a pu utiliser au travers de la voyance, de l'astrologie, de tout ça, hein, il y a des personnes, moi, je l'ai souvent rencontré, on a souvent partagé avec ces personnes-là, où ils ont des pendules, ils ont des livres ésotériques, ils ont toutes sortes de choses qui font penser aux œuvres des ténèbres, à des livres sur les guérisseurs, tout ça. Et bien, à toutes ces personnes-là, on leur demande systématiquement de tout rassembler, on les brûle. Les idoles, tout ça, on les brise, on les brûle. Tout ce qui est de la puissance des ténèbres, on les brûle. On le consume. On ne laisse rien. Déjà, comme ça, ça permet, je dirais, ça permettra à personne de pouvoir le reprendre, le réutiliser plus tard. Ça, c'est déjà une chose. Mais on voit au travers de la parole de Dieu que tout ce qui est occulte, malédiction, tout ça, on brûle. Et là, n'est pareil aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a un autre cas. C'est le cas d'Acan. C'est un cas particulier, lui. Et comme il y a une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida et on le brûla au feu. Ça aurait été suffisant de le lapider, non ? Vous ne croyez pas ? Mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose là. Ce cas d'Acan nous permet de bien voir que le feu, l'incinération apparaît clairement comme un châtiment. Comme un châtiment dans la Bible. Tout ce que nous pouvons parcourir à ce sujet-là est comme un défi. Et le Seigneur nous le montre de manière très claire. Alors, quels sont les arguments ? Parce qu'il y a forcément des arguments, je parle pour aujourd'hui, hein, des arguments pour ceux qui sont favorables à l'incinération. Bon, certains, premier argument que peuvent avoir certains, c'est le coût. On entend dire aujourd'hui que les enterrements reviennent trop cher et que la solution est l'incinération. Certes, c'est vrai que les enterrements, ça a un coût, ça revient relativement cher. Mais l'incinération n'est effective que lorsqu'elle n'est pas suivie d'une inhumation. C'est-à-dire qu'une inhumation coûte plus de 3 000 euros hors frais de cimetière. Pour que ça vaille le coût, pour que ça coûte, je dirais, peu d'argent à la personne de se faire incinérer, il faudrait qu'elle garde l'urne à la maison. Si elle l'amène au cimetière, ça revient au même prix, ou à quelque chose près. Alors, au niveau du coût, c'est à revoir. Mais il y a un deuxième argument, la pratique est moins polluante, ou réputée plus propre, disent certains, parce qu'ils parlent de la destruction totale des germes. Alors, soyons honnêtes ce soir, l'homme n'a jamais pollué la terre, ça se saurait. Depuis le temps qu'il y a des milliers de gens qui ont été enterrés, on aurait une terre plus que polluée. Avouez qu'aujourd'hui, les hommes polluent plus par les pesticides, les insecticides et autres. D'accord ? Alors, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est très important. Et je regardais sur Internet aussi par rapport à la pollution via l'incinération. Et ils sont en train de revoir peut-être les normes aujourd'hui parce qu'ils s'aperçoivent que se faire incinérer, eh ben, c'est plus polluant que ce qu'on peut penser. Parce qu'on brûle le corps à 800 degrés pendant 1h30. Et c'est déjà un coût. Il faut de l'énergie pour faire des flammes de 800 degrés. Vous comprenez toute la suite derrière. Et certains sont aperçus que finalement, ce n'est pas si écologique que ça, entre guillemets. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a des arguments qui ne tiennent pas forcément la route. Puis, il y a un troisième argument que soulèvent certaines personnes, c'est qu'il y a un manque de concessions dans les cimetières de grandes villes. Certes, c'est vrai. Mais n'oublions pas que la loi permet une remise en fonction des concessions après un certain nombre d'années. Alors, c'est vrai que ça bouche dans les couloirs. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une situation qui est là et on veut essayer d'apporter certains arguments pour justifier un petit peu cet engouement. Mais moi, je pense, frères et sœurs, chers amis, que la raison est spirituelle. Elle est ailleurs pour moi, la raison. subitement, depuis les années 2000, il y a cet engouement, mais alors qu'avant, on n'y pensait pas forcément. Et là, il y a comme un effet, vous savez, il y a des modes parfois, et il y a comme un effet, un engouement un peu particulier qui est derrière. Et derrière tous ces arguments logiques et économiques, il y a d'autres logiques qui se cachent derrière cela. C'est la pensée humanisme, philosophique, orientale, matérialiste et athée. Par ce biais, je dirais, de la crémation. Et les gens ne sont pas conscients de ces actes, de ces choses-là. Pour ça que cette personne inconvertie m'avait posé cette question. Elle n'était pas innocente, cette question. Parce que forcément, elle a dû se poser cette question parce que pour elle, dans sa logique, en tant que chrétien, on enterre les personnes. Alors elle m'a posé cette question. Mais, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la crémation? On voit que même les inconvertis se posent cette question, sont dans cette interrogation vis-à-vis de nous. Alors, plus forte raison, nous avons besoin vraiment d'être au clair nous-mêmes. Et de savoir que, quand même, au départ, à l'origine, il y a toute une philosophie hindouiste et tout ce que vous voulez, humaniste, New Age, oriental, matérialiste, athée, puisque certains se sont lancés un défi de passer par l'incinération, pensant que Dieu ne serait pas capable de pouvoir reconstituer le corps. Il y a toutes sortes de défis aujourd'hui dans cette société. Alors, moi, pour conclure, par rapport à ce que je vous ai partagé ce soir, qui est très simple, mais qui est basé tout simplement sur certains versets des Écritures là-dessus, parce que honnêtement, je crois qu'on a besoin vraiment d'être au clair. Et certains peuvent penser que l'on soit enterré ou incinéré, cela n'a pas grande importance et que le résultat est le même. Dans ce sens-là, c'est vrai. Quelque part, dans un certain sens, c'est vrai qu'on se fasse incinérer ou enterrer. De toute manière, en tant que chrétien, on va ressusciter. Le Seigneur va nous reconstituer en gloire. Mais le problème n'est pas là. Il faut quand même penser que derrière, il y a un symbole très important. Il y a un symbolisme. Et tout ce que nous faisons sera ramené à notre foi, à notre croyance, sans que les gens en fassent le distinguo. Et la crémation ou l'ensevelissement est forcément un symbole éloquent de ce que l'on croit, de nos convictions, de notre engagement, de notre témoignage, de ce qui nous entoure, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, de nos familles. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de pouvoir, je dirais, prendre cela avec de la sagesse, de l'intelligence. D'accord ? Ce n'est pas une doctrine en soi, mais derrière, il y a toutes sortes d'arrière-pensées, de philosophies. C'est plus qu'une mode. Il y a un signe derrière cela. Hein ? Il y a un signe. On se reconnaît en tant que chrétien. Il y a des signes quand on est chrétien. Mais il y a des signes quand on ne l'est pas aussi. Et je crois que nous avons besoin de marquer notre identité en tant que chrétien. Après, chacun est responsable de sa vie spirituelle, de son engagement avec Dieu, juste pour qu'on puisse comprendre que personne qui se fait incinérer n'a pas péché, d'accord ? Elle n'a pas péché, elle ne va pas perdre son salut avec ça. Mais toutefois, au-delà de tout ça, c'est que nous avons besoin de marquer nos convictions, marquer notre pas. Et savoir que la parole de Dieu nous montre que toutes les fois où l'Éternel est intervenu par le feu, c'était pour une malédiction, c'était pour un interdit, c'était pour quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Or, nous sommes saints et nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés par le Seigneur. Alors nous restons, je dirais, aux yeux de Dieu comme lui nous voit. Alléluia. Alors que nous puissions réaliser ces quelques paroles ce soir et que cela a pu peut-être vous éclairer, vous donner un certain aperçu de ce qu'est la crémation. On va remercier le Seigneur, on va courber nos fronts et demander à Dieu de nous raccompagner à chacun d'entre nous en cette soirée. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es un Dieu de puissance, un Dieu de gloire, un Dieu de bénédiction. Et c'est vrai que les temps que nous vivons aujourd'hui nous amène à voir toutes sortes de choses que nous n'avions pas il y a de cela 50 ans. Et qui nous montrent que forcément dans la société dans laquelle nous vivons, là ici en France, le Seigneur nous amène à découvrir des choses particulières, des symboles particuliers, des images marquantes, frappantes. Et que Seigneur Jésus, nous en tant que chrétiens, nous avons aussi à marquer notre époque, à marquer nos convictions, que nous ayons des positions claires, nettes, précises, que nous gardions notre position telle que tu nous l'as enseignée au travers de ta parole. Et si c'est vrai qu'il n'est pas marqué clairement, Seigneur, dans ta parole, que nous ne devons pas nous faire incinérer, toutefois, Seigneur Jésus, suffisamment de textes nous montrent que toutes les fois où tu es intervenu, Seigneur, c'est à cause d'une malédiction, à cause d'un interdit, à cause de toutes sortes de choses qui sont venues te déplaire. Et Seigneur Jésus, nous voyons aussi tant de textes comme Abraham, Isaac, Jésus, et tant d'hommes de Dieu ont pu, Seigneur Jésus, être simplement enterrés. Alors Seigneur Jésus, nous voulons pas en faire une doctrine, nous ne voulons pas être légalistes et nous attacher à toutes sortes de principes, mais nous voulons tout simplement nous attacher à toi, à ta parole, à ce que tu veux nous dire et que nous puissions garder cette conviction dans notre cœur, que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi et que ce soit peut-être même une occasion pour nous de rendre témoignage. Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers qui ne te connaissent pas et de pouvoir leur partager, Seigneur Jésus, au-delà de convictions, d'incinération ou pas, au-delà de tout ça, de partager notre foi. Partager, Seigneur Jésus, notre amour pour toi. Partager le salut de Dieu. Seigneur, c'est toujours une occasion là de pouvoir vraiment aller plus loin avec toi. Alors, bénis mes frères, mes sœurs. Et que, Seigneur, ce que j'ai pu partager ce soir soit comme un outil, une occasion de pouvoir vraiment avoir de la matière et partager avec d'autres. Seigneur, que ton nom soit béni et qu'à toi seul revienne toute la gloire dans le bon nom, dans le précieux nom de Jésus. Amen.